Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Il est 17h02. Vous êtes en direct sur Radio Canu et c'est l'heure de Lilith, Martine et les autres. Du coup, on vous a préparé une petite trilogie d'émissions pour les trois émissions à venir qu'on a appelée la trilogie des mouflets et des mouflettes. Et pour cette trilogie, donc, on s'est intéressé aux femmes. Donc, on précise ici qu'on entend par femme une catégorie sociale construite et non essentialiste, qui font donc le choix d'avoir des enfants et de s'en occuper. Mais aussi, on va s'intéresser aux femmes qui font le choix d'avoir des enfants, de travailler ou de faire autre chose et donc de faire garder leurs enfants. Et enfin, aux femmes qui gardent les enfants de celles qui font le choix de travailler ou peut-être de ne pas s'en occuper. Du coup, en abordant ces trois volets, ça nous permet de soulever pas mal de questions et de tenter d'y apporter quelques éléments de réponse. Ça nous permet de réfléchir et de proposer des éléments d'analyse intéressantes sur la place des femmes et le choix des modes de garde aujourd'hui, sur ce que ça génère dans l'organisation sociale. C'est aussi l'occasion de rappeler que ces questions ne se posent pas uniquement dans les couples hétérosexuels, puisque nombre d'enfants sont élevés dans des couples monoparentales ou homoparentales. Et on a d'ailleurs pour vous quelques chiffres.
Alors je vais vous faire des petits chiffres, je suis Madame Chiffre aujourd'hui. Il y a 1,5 million de familles françaises qui ont des enfants et 85%... Pardon. 1,5 million de familles françaises monoparentales et 85% des femmes de toutes ces familles élèvent seules leurs enfants. Et dans les chiffres un peu comme ça qu'on n'aurait pas l'habitude, 15% des adultes deviennent parents sans conjoint. Et en 2011, quand l'INSEE a fait... Ça, c'est des chiffres de l'INSEE. Et une autre étude en 2011, c'était 200 000 personnes déclaraient être en couple de même sexe. Un couple sur 10 ont des enfants qu'elles déclarent comme le sien, celui du conjoint, ou en enfant commun.
Ok, merci pour cette parenthèse de petits chiffres. Et donc, pour finir un peu cette introduction sur notre trilogie, on est revenu sur cette notion qui vient des États-Unis de... care, qui signifie prendre soin, mais plus globalement aussi se soucier des autres. Et on verra pourquoi ce sont les femmes, mais aussi plus globalement les catégories sociales plutôt défavorisées, qui sont très majoritairement et depuis bien longtemps assignées à ces tâches de prendre soin des autres. Dans la cellule familiale d'abord, on le verra, les femmes s'occupent encore aujourd'hui davantage que les hommes des enfants. Ce sont elles qui abandonnent leur travail s'il le faut aussi, par exemple. Mais aussi dans la répartition des métiers, puisque les femmes sont surreprésentées dans les sphères de la relation d'aide, du soin, de l'accompagnement à domicile, etc. Un travail indispensable, mais souvent mal payé, mal considéré. On verra aussi que pour les femmes qui décident d'avoir des enfants et de travailler ou de continuer à avoir des activités, plusieurs choix de mode de garde s'offrent à elles, comme la nounou, la crèche, les relais familiaux, les filles au père, etc. Et que ces choix s'opèrent selon différents critères. Du côté de la famille qui cherche un mode de garde, selon la classe sociale par exemple, des études montrent que les choix ne sont pas les mêmes entre mode de garde collectif ou individuel. De même que dans les choix des personnes recrutées pour garder les enfants, puisqu'on a lu dans des articles que les personnes sont choisies selon leur nationalité et leur niveau d'études en fonction de l'âge des enfants à garder. En réfléchissant à tout ça, on s'est aussi demandé qui sont les femmes qui s'occupent de garder les enfants des autres. D'abord parce qu'on l'a dit, ce sont les femmes qui travaillent majoritairement dans les sphères de la relation d'aide, du soin, de l'éducation. Ce sont donc elles que l'on retrouve dans les crèches ou comme assistantes maternelles par exemple. Mais aussi parce qu'on assiste aujourd'hui à une chaîne mondiale du care, un peu une grande expression, c'est-à-dire que les femmes des pays les plus pauvres fuient leur pays, abandonnent leur famille pour notamment venir s'occuper des familles des autres dans les pays riches, où le partage des tâches domestiques n'est toujours pas d'actualité. En fait, avec l'entrée en massive des femmes sur le marché du travail après la guerre, mais aussi avec la mondialisation, son cortège d'inégalités croissantes, de privatisation, d'individualisme, on assiste à la crise actuelle et à l'augmentation de la migration des femmes, réponse à la demande de care dans les pays riches. Du coup, il nous semblait un peu important d'avoir ça en tête. Et donc les micros et les animatrices de Lilith ont traîné un peu partout ces derniers temps, dans la crèche de l'Université de Lyon 2, dans des familles qui emploient des jeunes filles au père, auprès directement de ces jeunes filles au père, chez des femmes qui tentent de s'organiser entre leur travail, leur vie affective, leur enfant. Bref, auprès de toutes ces femmes qui s'occupent d'enfants au quotidien, que ce soit les leurs ou ceux des autres, que ce soit dans la sphère familiale ou dans leur travail. Donc, on commence aujourd'hui cette grosse trilogie par une émission consacrée aux crèches. leur historique, leur fonctionnement en France et aussi ailleurs, avec un reportage d'une action pour obtenir une place en crèche, par exemple, qui s'est déroulée il y a quelques années. Et puis, on accueille aussi aujourd'hui dans nos studios Alex. Bonjour Alex.
Bonjour.
Qui nous parlera plus tard de son métier et de son travail en crèche, notamment. Voilà, c'est parti.
C'est parti pour une petite berceuse pour vous mettre en ambiance.
Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au pas. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au pas. Jamais on n'a, jamais on ne, la famille courir après les, le papa et la maman et les enfants. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au pas. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au pas. Jamais on
jamais
a
jamais
vu, jamais on ne
jamais
verra,
jamais on verra
la famille tortue courir après les rats.
Le papa
tortue et
la maman,
maman tortue
et les enfants.
Alors, pour continuer sur l'émission sur les crèches, on va d'abord faire un petit tour d'horizon dans plusieurs pays pour voir un peu comment ça se passe, les politiques de la petite enfance là-bas.
Donc effectivement, moi j'ai fait quelques petites recherches donc en ce qui concerne les crèches en Allemagne, en Suède et aux États-Unis. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec les crèches en France. Donc en Allemagne, il y a un manque considérable de crèches parce que ça coûte excessivement cher et ils ont se sont inspirés du modèle français. Donc avec une politique nataliste qui est assez importante et cela ça coûte très cher au niveau du en Allemagne. Ensuite, en ce qui concerne la Suède, les congés parentaux sont de 480 jours pour donc les parents pour les enfants donc avant 8 ans. Il y a des nounous qui sont agréés dans les crèches et ça commence à partir de l'âge donc de 2 mois et demi. Il y a aussi des Open First Schola qui sont des crèches ouvertes, gratuites et animées par des péricultrices. Il y a également beaucoup de crèches, mais ça revient aussi très cher donc par rapport au gouvernement. Ensuite, en ce qui concerne les États-Unis, on parle de daycare. Et donc là, c'est le modèle anglo-saxon. Donc, c'est des structures qui sont privées, non financées par l'État. Donc, ça coûte de 30 à 50 dollars par jour. Donc, on constate que c'est excessivement cher. Ensuite, en ce qui concerne la France, donc il y a un modèle tripartite. donc social, éducatif et pédagogique. Donc c'est un enjeu politique qui est très important. Il est destiné aux enfants, donc préscolaires, à partir de l'âge de 3 mois. Ensuite, le mode de garde est démocratique avec des tarifs donc, d'une grille nationale. Ensuite, on constate également qu'il y a un problème dans les milieux ruraux. On constate également qu'il y a un quart des places en Île-de-France et en Méditerranée. Donc, c'est surtout à ces endroits que c'est très privilégié.
Ah, et sur les places en crèche, il y a dans une revue itinérante qui s'appelle Z, qui a fait son dernier numéro sur les femmes, et il y a un article dessus qui parle des places en crèche, la difficulté d'avoir des places en crèche, surtout à Marseille, et d'actions qui sont menées par les femmes justement pour avoir ce droit-là aussi. Donc, n'hésitez pas à aller en librairie, il se trouve facilement cette revue.
Alors moi je suis allée donc à la crèche Équale, j'ai été accueillie par Régis. Donc cette crèche elle se trouve près de la fac à Bron, mais initialement elle a été à l'initiative en fait d'étudiantes qui se trouvaient sur les quais. Donc c'était durant le mai 68. Donc elles avaient leurs enfants et elles souhaitaient les faire garder pendant qu'elles étaient à la fac. Donc elles ont utilisé justement le système de crèche sauvage. Donc le principe en fait c'était qu'il y a 5 hommes et 5 femmes qui ont le même salaire, il n'y a pas du tout de hiérarchie. Ensuite il y a vraiment un principe d'égalité, donc ça accueille les enfants de 5 mois à 5 ans. Donc ça accueille également des enfants qui sont issus des quartiers. Il y a un encadrement qui est mixte avec une pédagogie non directive et surtout avec un apprentissage de la vie collective. Et là, ils ont fêté leurs 20 ans depuis qu'ils sont à Bron, puisque du coup, la crèche a été institutionnalisée en 71. Et effectivement, donc du coup, par contre, il y a quand même un nombre restreint au niveau de l'accueil des enfants. Donc, c'est une quinzaine d'enfants. Et c'est vrai que donc du coup, elle fonctionne comme un mode associatif et elle permet effectivement pour les étudiantes qui ont des enfants de pouvoir aussi donc déposer leurs enfants pour aller à la crèche.
Oui, du coup, c'est rigolo cette crèche parce que c'est vrai que en général, dans les crèches, il y a quand même très très peu de personnel homme. Et là, c'est apparemment un choix militant de cette crèche spécifiquement depuis toutes ces années de choisir la mixité. Et alors toi, Alex, bonjour. Alex,
bonjour.
Tu as fait un petit stage dans cette crèche, je crois, pendant ta formation d'éducateur, éducatrice de jeunes enfants.
Alors non, en fait, j'ai fait un micro-stage quand j'ai repris des études en psycho, en fait. C'était un petit stage d'observation. Et du coup, c'était une découverte parce que je ne connaissais pas du tout le milieu des crèches. Donc ça, c'était bien avant que je reprenne une formation pour travailler en crèche. C'était 10 ans avant, enfin auparavant. Et du coup, j'ai découvert un lieu de travail et d'accueil d'enfants et de familles que j'ai trouvé hyper intéressant. Et c'est petit à petit ce qui m'a poussée à me professionnaliser dans le milieu de la crèche. Et j'ai cru, en fait, un peu naïvement, que toutes les crèches fonctionnaient un peu de cette manière-là. Donc, mixité homme-femme. Bon, j'imaginais bien que ce n'était pas le cas, mais en fait, c'est des professionnels hommes-femmes qui ont des formations différentes, mais qui ont le même salaire, dont les tâches et le travail tournent au niveau des responsabilités. Donc, la personne qui est en direction l'est pour un certain temps, et ensuite, elle en charge plus d'être auprès des enfants, et puis, etc. Donc, il y a vraiment une rotation des responsabilités et des tâches. Et voilà, donc ça accueille à la fois, enfin ils accueillent à la fois des enfants de Lyon 2, donc des enfants de personnel, d'enseignants-enseignantes, d'étudiants-étudiantes de Lyon 2, et en même temps de familles de Bron. Voilà, donc moi j'avais découvert le milieu des crèches par cet intermédiaire, et en fait, effectivement, c'est un projet des années 70 qui a réussi à perdurer dans le temps, et souvent c'est plutôt un bon signe, parce que ça veut dire que ça correspond, que ça répond bien aux besoins et aux réalités de l'accueil, et avec une philosophie et une approche, voilà, qui sont des choses qui correspondent voilà, à la finesse, en fait, de ce travail-là. Et pour reprendre un peu l'histoire des crèches en France, donc la première est née à Paris en 1800, à peu près 40, Et c'est vraiment été... Enfin, elles se sont institutionnalisées petit à petit. Au départ, il y avait très très peu de fréquentation de ces crèches-là. Et c'était vraiment dans une finalité hygiéniste et caritative. Et voilà, elles ont commencé à être réglementées aux alentours de la fin du 19e siècle. Et petit à petit, avec un peu toutes les découvertes autour des microbes, et puis avec la forte mortalité infantile, ces crèches-là sont devenues des modèles hygiénistes. Les familles ne rentraient pas dans ces lieux-là, donc quand ils confiaient leurs enfants, les enfants bébés étaient déshabillés de leurs habits civils de la vie quotidienne. Ils passaient par des sas, donc on faisait passer les enfants par des fenêtres. Ils étaient rhabillés aux habits de la crèche, enfin baignés, rhabillés. Et effectivement, c'était des lieux où en fait il y avait aucune transmission entre les réalités familiales et culturelles de l'extérieur et ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est vrai que dans les années 70, la première crèche sauvage, enfin, s'est faite sur le modèle de la crèche de la Sorbonne à Paris, où les étudiants et étudiantes qui se mobilisaient se sont organisés pour que leurs enfants soient gardés dans les lieux, dans la Sorbonne. Et c'est ce qui a permis petit à petit de se dire, avec toute la créativité qu'il y avait à l'époque et un peu les réflexions en matière d'émancipation, de se dire qu'il y avait d'autres possibilités d'accueillir et de penser la petite enfance dans des lieux qui étaient réservés pour ces très jeunes êtres humains. Voilà.
Et ce qui a fait penser ça, c'était notamment les études sur l'hospitalisme. C'est ça dont tu nous parlais. L'hospitalisme.
D'accord.
Si c'est lié ou pas.
En fait, les pratiques étaient des pratiques hygiénistes qui étaient liées aussi à la forte mortalité infantile. Petit à petit, en fait, sont arrivés les vaccins, sont arrivées des mesures d'hygiène, sont arrivées des compréhensions, etc. Il y avait aussi, je pense, toute une philosophie. Enfin, je pense, en fait, d'ailleurs, je vous renvoie à un livre qui raconte très bien ça. C'est une sociologue qui s'appelle Liane Moser, qui a pensé en France la sociologie de l'enfance, voilà, qui a écrit un livre qui s'appelle Le printemps des crèches et qui s'appuie beaucoup sur les réflexions aussi. De sociologues, de philosophes, pour expliquer un peu comment il y a eu un tournant et puis d'autres manières de penser ces lieux-là aux alentours des années 60, enfin voilà, de 68. Et du coup, après, il y a eu aussi des recherches sur le développement de l'enfant. Il y a eu des recherches aussi à partir en fait des découvertes d'orphelinats en Roumanie à la chute de Ceausescu. Quand ils ont ouvert les orphelinats, ils se sont rendus compte que les enfants étaient dans des états de carence affective. Là, on fait un bond qualitatif, enfin historique, mais en gros, en fait, c'est toute cette réflexion et toutes ces recherches sur la psychologie, notamment du développement, où ils se sont rendus compte que on pouvait prodiguer des soins physiques et physiologiques parfaits, qui suivent des protocoles parfaits à des enfants. Et pour autant, ça les sidérait, ça les empêchait d'avoir envie de vivre, d'être en lien et d'avoir envie de se développer, quoi. Et on voit, donc ça a été théorisé notamment par un chercheur psychologue qui s'appelle René Spitz. Voilà, ça a été conceptualisé avec un terme qui s'appelle l'hospitalisme, donc la maladie liée à l'accueil en situation d'institution, quoi, pour les enfants privés de leurs parents, parce que pour le coup c'était des orphelins ou de leur famille. Et effectivement, on se rend compte ils se sont rendus compte à l'époque qu'il y a des retraits affectifs importants. Il y a même des enfants dont tous les indicateurs de vitalité, sommeil, alimentation, etc., sont au plus bas. Et on observe même des enfants qui se laissent mourir, des bébés, quoi, des êtres humains. Très jeune. Voilà.
Ok. Donc là, c'était un petit peu comment ça s'est développé, les crèches avec toutes ces revendications pour le bien-être des enfants aussi qui sont apparues peut-être au fil du temps. Et actuellement, il y a encore plein de revendications. Il y a notamment un collectif qui s'appelle Pas de bébé à la consigne et qui lutte pour des meilleures conditions d'accueil pour les enfants. Et il y a aussi pas mal d'associations féministes qui luttent pour plus de places en crèche. Et ça fait écho à un reportage qu'on a fait il y a quelques années, enfin que des copines ont fait, voilà, pour soutenir une copine qui cherchait une place en crèche pour son enfant. Et puisqu'elle était voilà, adulte, mère célibataire, donc on va écouter ce reportage.
Ose pas changer leur couche elle-même.
Ah, ça pue le caca, ballon.
On dirait un gratte, hein.
La couche, elle a débordé. J'ai rien pour le changer.
Oh, c'était pas bien.
Ça va puer. Ça fait 8 mois que je demande la crèche. Et on ne fait que me la refuser. Et là, depuis que j'ai recommencé à travailler depuis 4 mois, ce sont mes amis qui m'aident à garder mon fils. Mais là, j'ai juste plus de solution. Donc j'ai commencé à déposer mes congés. Je leur ai donné un ultimatum. Il faut une place de crèche, autrement je vais perdre mon travail. En fait. C'est une semaine, 15 jours. Ils ne m'ont pas donné de solution. Je ne pourrais plus aller travailler. Je suis toute seule avec le petit, je n'aurai plus de travail. Donc il me faut absolument une place en crèche. Ça fait 8 mois que je demande à toutes les commissions. J'ai écrit au maire de Lyon, j'ai écrit au maire du 7e, j'ai été reçue par l'adjointe au maire petit enfant du 7e. Ils m'ont envoyé balader partout à la PMI, etc. Et ils ne me donnent toujours pas de place. J'ai plus de choix. On est venu ce matin vers 10-11h, moi avec mon petit, puis des copines, puis on a été rejoint par un autre petit, mon papa, plein d'autres monde. Et ils nous font tourner en rond parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de place. Et nous, on ne bouge pas. On a dit qu'on ne sortirait pas tant qu'on n'aurait pas une place.
Mais on est où?
À la mairie du 7e, dans le service de la PEP.
Et là, tu fais quoi juste là maintenant?
Je suis en train de lui changer sa couche sur le bureau, je ne sais pas trop, du secrétariat de la PEP, je crois. Et on vient de manger le petit pot et le repas.
Concrètement, monsieur, qu'est-ce que c'est une preuve qu'elle va perdre son travail à part le code du travail qui fait qu'on doit être présent à son travail pour travailler?
Montrez-nous qu'il y a une... Laissez-nous le temps d'examiner tranquillement le degré d'urgence.
Là, ça fait 2 ans qu'elle est dans cette situation-là et qu'elle a fait déjà 4 commissions. Comment vous pouvez dire, laissez-nous tranquillement analyser l'urgence derrière à un moment donné.
Mais non, mais c'est bien ce que je vous dis. Il n'y avait pas d'urgence, puisque la maman, elle a toujours trouvé une solution.
Donc vous êtes bien d'accord, tant qu'on ne vient pas ici en force, il n'y a pas d'urgence reconnue. Parce qu'elle est venue plusieurs fois.
Alors là, moi, je peux vous dire, ce que vous soyez allé, alors là, on s'en bat le coquille.
On ne vous aurait pas vu si. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle vient.
Vous n'aurez rien perdu. Mais bon.
Elle a déjà rencontré l'élu tout à l'heure.
Vous n'êtes jamais venu là jusqu'à présent. Mais donc non, c'est bien quelque
on a chacun la répartition des rôles, etc. Bon,
oui.
Chacun
sa répartition donc des rôles. Donc c'est bien quelque chose qui a changé.
Ouais. Non, mais c'est pas parce que vous êtes là qu'il y aura l'urgence. Ça, c'est bien clair.
Non,
c'est bien entendu.
Vous êtes déplacé là
parce qu'il y a une Non, vous savez très bien. Vous ne faites pas
ça
qui ne comprend pas. Vous avez très bien compris. C'est pas parce que vous êtes six ici qu'il y aura l'urgence. En revanche, on veut bien.
On est là parce que la situation, elle devient préoccupante.
Je veux bien regarder avec la main. Je veux bien qu'on regarde avec la maman, avec la direction de l'enfant cet après-midi, s'il y a un problème d'urgence. Voilà. Ok. On examinera ça. S'il y a urgence, si on estime qu'il y a urgence, effectivement, on trouvera la solution. Mais si on estime qu'il n'y a pas
d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle preuve apporter pour vous montrer qu'il y a urgence?
On regardera ça avec la maman cet après-midi. Il ne veut pas vous demander un papier signé. Je suis un peu con, mais bon.
Mais c'est ce que vous avez dit. Demandez à votre employeur
quel genre de preuve.
Mais non, mais. On regarde ça avec vous cet après-midi avec la maman. D'accord?
De toute façon, on sera tous ensemble ici, on ne bouge pas.
Mais on ne recevra que vous, hein?
Non.
Ah bah oui, mais là, non, mais...
C'est impossible.
Non, mais attendez, c'est trop compliqué tout ça. Il y a des fois, il faut être un peu raisonnable aussi.
Vous l'avez dit, vous êtes plusieurs, et moi toute seule, vous êtes sûr que c'est égalitaire, ça?
Dans la salle d'attente, là, ils parlent de quoi?
Bah avec des élus, on a commencé à discuter des problèmes de crèche, des petits, puis ça a tourné sur le logement, et puis là, c'est un peu tous les débats qui se mettent en route, mais...
Moi, j'aimerais bien que vous viviez pendant quelques mois dans la précarité pour voir ce que ça fait, monsieur, parce que franchement...
Mais qu'est-ce qu'il vous dit que vous avez fait?
Ah bah peut-être vous l'avez fait, mais est-ce que vous l'avez fait à l'heure actuelle? Est-ce que vous l'avez fait à l'heure actuelle?
À l'heure actuelle, je serais ridicule de vous dire ça, mais qu'est-ce qu'il vous dit que dans ma vie, j'ai pas eu des périodes très difficiles?
Eh bah écoutez, à l'heure actuelle, c'est de pire en pire. À l'heure actuelle, vous vous rendez compte de ce que c'est?
Mais je suis bien d'accord que pour certains, la vie est très difficile. Je sais très bien. Mais il faut quand même que vous reconnaissiez qu'à la ville de Lyon, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Malheureusement, je vous dis, les finances ne sont pas extensibles. On ne fait pas les
finances. Du coup, comment ils te considèrent, toi, les élus?
D'un côté, ils ont essayé de nous faire croire que j'étais pas assez précaire. La précarité, pour eux, c'est, ils nous ont donné l'exemple d'une mère de 13 ans dont son enfant est battu. Là, à la limite, ils veulent bien faire quelque chose. Mais moi, c'est pas assez grave. Leur politique, c'est, ils disent à chaque fois, aller voir une assistante maternelle. Ils veulent pas gérer collectivement le problème. Au départ, j'avais choisi la crèche en mode de garde collectif. Et ensuite, je me suis aperçue que les échelons de maternelle, c'était un choix politique de la mairie de renvoyer toujours vers elle. C'est pour ça que j'ai pas voulu y aller. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qu'ils te disent quand tu viens ici, c'est « Mais madame, vous n'avez qu'à arrêter de travailler, vous allez perdre votre travail de toute façon. » Donc en gros, c'est soit d'être mère, vous restez chez vous, vous occupez de votre enfant. De toute façon, la CAF vous donnera de l'argent pour que vous fassiez ça, il n'y a pas de souci. Soit si vraiment vous voulez faire votre femme moderne, vous pouvez aller travailler. Mais non, seulement vous allez précariser une autre femme chez elle. C'est ça. Donc c'est pour ça que je ne veux pas aller vers l'assistante maternelle en fait. Après, je comprends qu'il y en a certains qui le choisissent. Là, je suis tout à fait d'accord en fait. Parce que on peut avoir envie qu'il soit gardé par une nounou, mais seulement si c'est un choix et pas une obligation comme ça le devient. En fait.
C'est toi qui as apporté cette couverture?
Oui.
Et du coup, tu as apporté tout ton nécessaire.
Bah écoute, j'ai amené tous les repas jusqu'à ce soir. Puis bon, bah là, on se pose un peu des questions aussi parce qu'ils ont dit que si on n'acceptait pas de rencontrer des personnes dans plusieurs semaines, enfin bon, comme d'habitude, ils appelaient la police. Donc au plus tard, on a jusqu'à 17h. Je sais pas comment ça va se passer.
Vous êtes formidable. Hein.
Léon est
à... Ah, mais c'est un compliment, hein.
Vous êtes qui, ici?
Ah, moi, je suis Pierre-Yves Chauveau, le directeur de cabinet de Jean-Pierre Flaconèche. Jean-Pierre Flaconèche étant le maire de l'arrondissement. Ouais. Bon, on fait comme ça.
Pour l'instant, on fait le rendez-vous tous ensemble, et puis voilà.
Mais on recevra avec la maman.
Bah, tous ensemble.
Non.
Si, ça peut être intéressant.
Non. Oui, t'as pas une bonne
idée. Alors, ça, je peux vous jouer avec moi, hein.
Et la petite boîte à musique?
La ville est obligée de respecter les procédures qu'elle a mises en place. Okay. Parce que sinon, c'est plus. Oui, vous pouvez dire, mais c'est plus la démocratie, sinon. Vous pouvez penser ce que vous voulez de cette démocratie-là, mais au moins elle a le mérite d'exister.
Les règles, ça n'a jamais été plus la démocratie.
Mais si, ils sont des règles après les élections. Je suis d'accord. Après les élections. Vous attendrez, ça, vous pouvez attendre à la porte, il n'y a pas de souci, hein, mais on le recevra que la maman. Enfin, la personne qui recevra.
On veut le faire ensemble.
Ce sera que la maman.
C'est plus important.
Bon.
Et du coup, vous allez être combien pour recevoir.
Ah, je sais pas. Une escouade de CRS peut-être? Ah, ben de toute façon, non, mais vous savez, on n'a pas le choix, de toute façon. Nous, la mairie, elle est fermée.
Moi, j'ai pas le choix.
La mairie est fermée à 17h, donc quoi qu'il en soit, vous serez parti à 17h. D'accord? Je vous laisse. N'allez pas avoir faim. Vous voulez pas qu'on fasse livrer à déjeuner, quand même?
Vous avez des crédits pour ça?
Ah non, on n'a pas de crédit.
Frais de réception.
Bah écoutez, bonne continuation jusqu'à tout à l'heure. Et puis, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bon, allez, moi j'y vais. À tout à l'heure.
Ambiance. Radio Canu, ici Radio Canu.
Ta moustache, le permis passé, repasse, mais il ne croit rien du tout. Le lapin mange le chou.
Donc, on vous reçoit, vous et une personne. Deux contre deux, comme ça. Vous discutez entre vous, vous voyez qui veut venir. Et puis, Bah, moi, je suis au premier étage, dans, à côté du bureau du maire.
On descend là.
Oui, dans le bureau de monsieur, mais on va faire.
Alors que les filles reviennent.
Normalement, là on a vu le maire là, monsieur Flaconèche, avec le mec qui était là tout à l'heure, t'es prêt ? Et il nous a proposé la procédure d'urgence, donc une place d'un mois renouvelable encore un mois. On aura la réponse vendredi, il faut venir vendredi en début d'après-midi.
On dit qu'en gros, vendredi et le rendez-vous c'est pour dire quand
c'est libéré. Et ça est maximum 2 semaines, mais en gros 1 semaine quoi, pour l'avoir normalement. Donc a priori, ça devrait être bon.
La 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 la, la la la. Et c'est ainsi que Laura réussit en ce 3 mai 2011 à avoir une place en crèche après une journée de siège offensif et dévastateur dans les locaux de la mairie du 7e arrondissement de Lyon. Dès le lundi suivant, Léon, 9 mois, fut accepté en crèche et put découvrir qu'il existait plein d'autres créatures aussi bruyantes, odorantes et petites que lui. Victoire due à un bon réseau de copines et de copains, due aussi à une conscience selon laquelle l'État se désengage des services publics toujours plus. Victoire exceptionnelle qui demande que l'on se sente fort ensemble à un moment donné et que l'on peut agir. Victoire donc qui n'est pas donnée à tout le monde puisqu'il y a 300 familles qui sont sur la liste d'attente pour une place en crèche rien que pour l'arrondissement.
Pomme de rainette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de rainette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Cache ton poing derrière ton dos, moi je te donne un coup de marteau. Pomme de rainette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de rainette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Pomme de rainette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de rainette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Pomme de rainette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de rainette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Cache ton poing derrière ton dos ou je te donne un coup de marteau.
Vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2 FM, l'émission qui aime le plus les comptines enfantines parce que on parle de crèche. Et pour certaines, pour se dire un petit peu, bah le petit bébé avait 9 mois et maintenant est rentré au CP. Pour vous marquer le temps qui est passé. Et dans les petites anecdotes, pour continuer à balancer cette famille qui parle publiquement, l'intégration en crèche a été assez difficile parce qu'il y a des critères. Et par exemple, il y avait le critère d'avoir un doudou pour faire un lien famille-institution en crèche. Et par exemple, la mère refusait parce qu'elle n'utilisait pas ça, elle n'avait pas utilisé ça pour les 9 mois de vie de ce petit enfant. Et du coup, là, devait le mettre en place. Et la crèche a décidé de le mettre en place malgré tout en lui donnant les tissus blancs, les lingettes qu'on voit. Et il avait ça par lui-même. Puis après, une autre anecdote qu'on voit, en fait, que les crèches ont aussi des pratiques des pratiques, c'est que cet enfant, il est arrivé, il avait 9 ans, il était déjà bien dodu.
Et 9 en mois.
Fait, 9 mois, pardon. Et il se mettait, si on l'asseyait, il restait assis, il bougeait pas, mais il le faisait pas par lui-même. Alors elles ont décidé de le laisser dans un transat, et de pas, parce que par lui-même, il faisait pas les mouvements. Et donc des fois on allait le chercher à la crèche, puis c'était un gros bébé dans son transat qui bougeait pas. Voilà, mais après c'était aussi peut-être que la perception de la crèche qui avait accueilli la copine en urgence avait un peu un regard un peu biaisé sur elle, et du coup avait peut-être un accompagnement différent qu'elle aurait pu le mettre en place ou que d'autres personnes témoignent des accompagnements en crèche. On continue donc cette émission passionnante sur les crèches.
Et oui, et comme donc pour faire le lien, du coup, c'est vrai que dans les crèches, il y a des pratiques à des moments très normatifs, mais pas que ça, il y a beaucoup aussi à inventer dans le travail un peu tout le temps. J'ai l'impression que travailler avec des jeunes d'enfance, c'est souvent très 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 peu valorisé. On se dit, ah, super, pas besoin de formation pour torcher des culs et tout ça. Mais voilà, il y a tout un pan à découvrir qui a l'air assez passionnant. Et Alex, toi qui travaille dans un centre social, toi, tu veux nous parler un peu de ce métier ?
Oui. Donc, du coup, moi, je suis jeune professionnelle, jeune formée. Ça fait un an et demi que je travaille en crèche. Et donc, auparavant, j'ai fait 3 ans de formation dans une école d'éducateurs et éducatrices de jeunes enfants. Et en fait, auparavant, j'ai fait d'autres choses. Voilà. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est une formation qui est en plus ou moins en alternance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des temps théoriques et des temps de stage en lieu d'accueil petite enfance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a des diversités de pratiques qui sont liées à beaucoup de facteurs. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour voir un peu ce qui se passe dans ces lieux-là. Et effectivement, il peut y avoir des choses très différentes, des possibilités de penser les pratiques, des empêchements, ce qui peut aboutir effectivement à des moments où il y a des choses assez dogmatiques qui peuvent être observées, comme obliger un enfant à avoir un doudou alors que c'est pas du tout une pratique familiale, ou effectivement empêcher un enfant de bouger par lui-même qui passe sa journée coincé dans un transat, par exemple. Bon, après, il y a vraiment une richesse potentielle et des ressources auprès des équipes et des familles, et c'est ça qui est intéressant, et des enfants, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les lieux de la petite enfance, c'est de pouvoir découvrir et d'être assez émerveillé de toutes les ressources dont disposent les jeunes enfants. Et en fait, si on a les possibilités d'observer ce qu'ils entreprennent, leurs appétences, et puis aussi si on a un peu les possibilités d'avoir recours à de la théorie ou à des théories, un faisceau de théorie, parce qu'en fait c'est ça qui permet de sortir un peu des aveuglements et des pensées dogmatiques, on voit à quel point les enfants sont riches et compétents et interactifs et acteurs de leur développement. Donc après, c'est vrai qu'en fonction des lieux qu'on traverse, il y a vraiment des choses très différentes. Moi, j'avais fait des études d'anthropologie au tout début de ma formation post-bac. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à rentrer dans ces lieux-là, après Equal, j'ai découvert d'autres types de modalités de relations et d'organisation et de relations aussi entre des collègues. Et je me suis rendu compte, et de moyens budgétaires aussi, je me suis rendu compte que c'était un peu comme des micro-sociétés, voilà, avec des règles, des normes, des cultures, une culture de l'accueil, une culture du non-accueil, enfin de l'accueil affiché, et puis finalement à des endroits où on disait que les parents, par exemple, pouvaient rentrer, circuler, mais à cet endroit-là, de l'espace où ils pouvaient rentrer, il y avait un gros meuble qui les empêchait de passer. Voilà, enfin, en fait, c'est des lieux qui, à partir de l'organisation de l'espace, du temps, des instances qui sont proposées, voilà, sont assez signifiantes, et ça a des effets en fait sur les enfants au quotidien. Et pour certains, ils restent voilà, les familles qui ont la possibilité d'obtenir une place en crèche, et c'est quand même assez rare vu les statistiques, mais en tout cas, bah, c'est des enfants qui, pour certains, et certaines passent des temps assez longs en crèche, et penser leur accueil est assez important. Voilà, donc moi, ce qui me passionne dans ce travail-là, c'est vraiment que ça demande de penser ce qu'on fait là, de la manière aussi dont on se représente ce qu'est l'enfance, dont on se représente aussi... comment est-ce que collectivement on peut organiser un accueil. Et c'est vrai que ce qui est très difficile, c'est qu'on a nos propres représentations, nos propres empêchements, et que des fois on pense détenir une vérité, et on a chacun un peu nos modèles éducatifs qu'on a intériorisés, et on est dans des espaces-temps où en fait on est tout le temps quasiment face publique, on peut dire, on est tout le temps en interaction avec les enfants. Et on a très très peu de temps pour penser la pédagogie et nos projets éducatifs. Et voilà, et c'est ça qui rend assez, assez frustrant notre travail, parce qu'en fait, on aurait beaucoup à élaborer collectivement pour accueillir correctement ces enfants. Et voilà, on n'a pas toujours le temps de le faire. Moi, je travaille dans un centre social, et c'est vrai qu'au niveau de la direction de notre centre social, quand on parle avec nos autres collègues qui sont d'autres secteurs, donc le secteur animation, le secteur famille, adulte-famille, etc., je pense qu'ils ont du mal même à se représenter quel est notre travail, la portée de notre travail. Et effectivement, c'est ce que vous disiez un peu en introduction, c'est des métiers qui sont rendus très peu visibles et dont on comprend très peu le sens, et où finalement il y a beaucoup de représentations assez erronées. Effectivement, on change des couches et on essaye de bien le faire, parce qu'il y a aussi du sens à prendre soin du corps de l'enfant et à rentrer en contact avec lui, mais il y a aussi plein d'autres choses qui se jouent et qui sont d'une grande complexité.
Voilà. Et du coup, toi, t'aimes bien t'appuyer sur plusieurs théories et pédagogies. Et tu avais parlé avant la petite pause musicale, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est la motricité libre. Tu m'avais parlé de ça une fois.
Oui. Alors en fait, c'est quelque chose d'un peu plus large. En fait, il y a une pédiatre hongroise qui s'appelle Amy Pickler, qui est décédée, je crois, dans les années 80-90, et donc a dû officier, enfin, je sais pas, dans les années 30-70, je sais pas exactement, mais bon, qui au départ intervenait au domicile des familles et qui a beaucoup observé les enfants dans leur milieu de vie quotidien, et qui a pris après la direction d'un orphelinat rue Loksi à Budapest. Et donc on a émergé une pédagogie qui s'appelle la pédagogie Loksi ou Pickler. Loksi, Pickler, c'est le nom de cette pédiatre. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que la motricité libre. C'est vraiment une pédagogie qui essaie de prendre en compte l'individualité de l'enfant et ce qu'il entreprend par lui-même, et d'essayer d'être au plus près de ce qu'il entreprend, que ce soit au niveau de l'organisation de l'espace, l'aménagement de l'espace, la mise à disposition de jeux, enfin voilà, d'objets ludiques, de matériel ludique, l'organisation du temps, en leur donnant des repères, le lien avec les familles pour créer une continuité. Et il y a tout un travail, donc là j'arrive à la question de la motricité libre, pardon, sur le développement psychomoteur de l'enfant, où en fait elle s'est rendue compte que les enfants avaient, donc ça après on le sait maintenant à partir d'études plus poussées, mais c'est se saisir par lui-même de sa maturité neurophysiologique, c'est-à-dire qu'en fait il y a un programme de développement psychomoteur qui est aussi un programme neurologique, voilà, qui participe, enfin là il y a la, je vais pas rentrer dans les détails physiologiques, mais petit à petit, l'enfant sait tenir sa tête, puis ensuite, les mouvements volontaires arrivent au niveau de la nuque, ils descendent le long de la colonne, petit à petit, les mains commencent à rentrer en action, les mains de manière globale, avec plus la prise palmaire, puis ensuite, voilà. Donc, il y a un affinement comme ça, et en fait, l'enfant, s'il n'est pas trop empêché dans ses mouvements, c'est ce... arriver avec la maturité affective en fonction de sa curiosité, puis en fonction de ce qu'il sait faire physiquement, arrive à bouger petit à petit et découvrir le monde à partir de sa sensorimotricité, mais à son rythme, et c'est ce qui lui permet de se connaître, de s'étayer pour pouvoir aussi découvrir le monde et se connaître et rentrer en relation avec les autres. Et la motricité libre, c'est petit à petit quelque chose qui a beaucoup résonné en crèche. Donc ça commence un peu à être dans les projets et dans les têtes des professionnels, c'est-à-dire ne pas mettre un enfant dans une position qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas organisé au niveau de sa pensée par lui-même et dans son corps. Et voilà, par exemple, ne pas asseoir un enfant qui ne sait pas s'asseoir par lui-même, parce que voilà, il passe du plat dos, donc il est couché sur le dos, Ensuite, il découvre qu'il peut rouler sur le ventre. Après, il reste un peu coincé, mais il redécouvre qu'il peut repasser sur le plat d'eau. Donc là, il est vraiment dans quelque chose d'une découverte, toujours un peu en 2D. L'asseoir comment lui imposer, enfin, de tenir verticalement sur ses os, donc on appelle ça les ischions. Voilà, en fait, c'est juste l'empêcher de se découvrir et le verrouiller. Et voilà, donc là, sur ces questions-là, je trouve que c'est intéressant à la fois au niveau de la connaissance du développement psychomoteur, et puis aussi, au-delà de ça, dans cette pédagogie, c'est plutôt voilà, faire confiance à l'enfant dans ce qu'il est en capacité d'entreprendre, et l'aider en mettant à disposition des choses autour de lui pour que lui-même puisse, voilà ce que je disais tout à l'heure, être acteur de son développement. Donc c'est un peu ça. Vaguement expliquer la motricité libre, mais là-dessus il y a pas mal de choses qui ont été écrites, et voilà, donc motricité libre, approche Amy Pickler, E2MI plus loin PIKLER, voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant, et ça a une portée, je trouve, chez les enfants, dans des lieux où les équipes travaillent comme ça. J'ai l'impression, quand j'ai été en crèche et que j'ai vu un peu différents milieux, qu'il y a beaucoup plus d'aisance et de fluidité dans les mouvements chez les enfants. Et peut-être que ça participe aussi à beaucoup plus d'aisance et de fluidité de manière un peu plus large que concernant uniquement l'appropriation du corps.
Et oui, et du coup ça va avec l'idée de pas faire des travaux dirigés, de pas que l'adulte va pas imposer à l'enfant des activités. Et ça me fait juste penser à une pause musicale, à une émission de Langue de Fronde, qui est une émission féministe dans la région parisienne, qui a fait un reportage sur une crèche antisexiste à Aubervilliers. Donc vous pouvez retrouver ce reportage sur le site Radio Rageuse, qui regroupe des émissions féministes. Et c'est l'association Adéquation qui mène cette crèche. Voilà, ils essayent, voilà, que l'enfant aille librement vers des activités de manière non sexiste aussi. Donc c'est lui qui va choisir les jouets le plus possible neutres et pas connotés filles-garçons. Et maintenant,
dans cette continuité de motricité libre, là, c'est Betty Cyclope qui chante l'apéritif des enfants. On va voir si c'est dans la même veine.
Yeah.
Vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres sur Radio Canus 102.2 FM, l'émission sur les crèches le plus féministement vôtre.
Du coup, je voulais juste dire qu'effectivement, il y a plein de types de crèches avec des gestionnaires différents. Donc, il y a des gestionnaires municipaux. C'est les crèches, par exemple, municipales. Je pense que là, par exemple, la demande qui avait été faite sur le petit reportage d'avant, il s'agissait de pouvoir entrer dans une crèche municipale. Il y a des crèches associatives, donc qui peuvent être gérées par des grosses associations ou par des petites associations, grosses associations, type centre social. Il y a des crèches mutualistes qui sont gérées par des mutuelles, notamment la mutualité sociale du Rhône. Française du Rhône. Il y a des crèches d'entreprise, voilà, donc là c'est des contingents de places qui sont réservés à des salariés, enfin à des enfants de salariés d'entreprise. Il y a des crèches privées lucratives, donc là de plus en plus c'est des choses qui commencent à exploser. C'est vraiment des gestionnaires privés dont l'accueil en crèche des enfants et des familles a pour but de générer du profit. Donc là, c'est des babylous, les petits chaperons rouges. Donc qu'on soit au nord de la France ou à l'ouest ou à l'est, c'est le même projet pédagogique. C'est-à-dire que c'est pas du tout adapté ni aux réalités des familles concernant un territoire, c'est exactement pareil. Les décorations sont les mêmes, le mobilier est le même, les projets sont les mêmes. Généralement, il y a une politique de communication très bien léchée et on parle un peu des pédagogues, des grands pédagogues, comme étant des sources d'inspiration dans ces lieux-là, mais avec très peu d'intériorisation finalement de ce qui émerge, parce que c'est quelque chose, de toute manière, qui est tellement complexe. Intégrer que là c'est un peu la soupe, on fait du Freinet, du Montessori, on fait du Amy Pickler, on fait du Malagoudi, bon c'est des noms que vous connaissez pas, mais voilà, on fait un peu tout quoi. Y a de plus en plus des toutes petites structures qui se créent, alors là privé lucratif ou associatif, ça s'appelle micro-crèche. Donc là, c'est des accueils d'une toute petite dizaine d'enfants. Donc ça peut être des lieux intéressants. À Creuset, moi, je ne connais pas spécialement, mais bon, c'est des lieux qui existent. Puis après, il y a l'accueil individuel, donc les assistantes maternelles, les crèches familiales. Donc c'est des crèches qui accueillent des assistantes familiales, enfin des assistantes familiales ou des assistants familiales, mais bon, c'est souvent des femmes quand même, avec les enfants qu'elles gardent ou qu'ils gardent sur un temps d'accueil collectif. Voilà. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à la fois, il y a des temps d'accueil collectif et de rencontres entre les différentes professionnelles qui finalement travaillent beaucoup à domicile et dans leur espace privé intime. Et les relations qui se créent avec les familles ne sont pas des relations directes employeur-employé. Ça passe par la crèche familiale. Donc finalement, c'est la crèche qui emploie les assistantes maternelles. Et c'est vrai qu'au niveau du travail avec les familles, ça peut être un peu plus facilitant, parce que quand il y a des difficultés relationnelles, c'est difficile quand l'enfant est au milieu, lié à l'emploi, lié au salaire, lié aux conditions de travail, lié aux horaires, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Et il y a des crèches, notamment, qui sont issues des crèches sauvages, qui s'appellent des crèches à gestion et à participation parentale. Donc on peut les appeler les crèches parentales aussi. Et ça, c'est des crèches qui sont intéressantes dans le sens où les membres du conseil d'administration sont des familles. C'est donc les employeurs, en même temps, qui sont aussi parents de leurs enfants. Et c'est eux aussi qui prennent toutes les décisions politiques et pédagogiques et la responsabilité financière de ces lieux. Et donc les professionnels sont des personnes référentes techniques, en fait. Elles travaillent dans ces lieux-là. Et les parents sont susceptibles de faire des permanences. Ce qui est intéressant dans ces lieux-là, c'est qu'il y a vraiment... ce que j'ai pu en observer, parce que des fois, ça ne fonctionne pas du tout, mais il y a vraiment une communauté d'apprenant, apprenante qui se crée. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, ce qui émerge des familles au niveau de la culture familiale, mais aussi de ce qui les intéresse, viennent infiltrer et viennent nourrir ce qui se passe dans les pratiques dans ces lieux-là. Et vice-versa, les pratiques des professionnels avec d'autres réflexions viennent aussi. Donc il y a vraiment des allers-retours qui viennent un peu renouveler les savoirs de professionnels, de parents, famille, et aussi les savoirs enfantins, parce qu'on voit que les enfants aussi apprennent beaucoup et nous apprennent beaucoup. Et là-dessus, je voulais juste dire qu'il y a une revue extraordinaire qui s'appelle Revue Petite entre crochets enfance. C'est une revue qui est suisse, qui est de Lausanne, et où il y a vraiment une volonté de réflexion autour des pratiques de la petite enfance. Et notamment, il va y avoir un numéro, le numéro 123, sur les transactions sociales enfantines. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ce qui se passe entre les enfants produit beaucoup de savoir et crée aussi des cultures générationnelles dans les crèches, dont nous, en tant qu'adultes, finalement, on n'est pas tellement les initiateurs. Voilà, donc c'est des choses qui sont aussi intéressantes à prendre en compte.
Merci.
Merci. Merci. Lilith Martin et les autres se terminent sur Radio Canus 102.2 FM avec un petit agenda. Merci Alex d'avoir parlé tout ça. Et on enchaîne du coup, rien à voir avec les crèches, ce soir
nous.
À 20h et les autres. Alors ce soir à 20h, cabaret queer anarchiste dans un squat villeurbanais. Pour avoir l'adresse, il faut faire tutu77@rise.net. Demain, il y a un rassemblement à 11h, place Raspail, contre la mascarade présidentielle. En gros, les personnes qui appellent à ce rassemblement, place Raspail à 11h, veulent et manifestent, appellent à manifester pour dénoncer la gueule de bois, les mensonges du discours formaté, se réapproprier la parole confisquée par les professionnels de la dite politique, pour nous, le peuple, réapproprier le pouvoir sur le politique, constituer un contre-pouvoir citoyen, citoyenne en vue de transformer les institutions, abolir le régime présidentiel tout-puissant, par un changement de constitution, former une assemblée constituante de citoyens tirés au sort dans les assemblées locales pour modifier la constitution dans les orientations d'une république sociale, établir un véritable état des lieux et permettre la formation de projets collectifs pour une transition vers une véritable démocratie impliquant les citoyens et citoyennes. Tout ce que vous faites pour nous et sans nous, vous le faites contre nous, en se référant à Gandhi. Et comme en fait il y a Le Pen, Macron et Mélenchon qui tiennent des meetings à Lyon ce week-end pour lancer leur campagne présidentielle, ils rappellent que quelles que soient les idéologies, ils pratiquent pas l'amalgame, ils disent pas que ces trois personnes présentent le même programme, mais ils dénoncent plutôt le fait d'élire un président, son propre chef. On continue, parce qu'on a encore quelques minutes, avec le 9 février, le collectif Lesbien et Big Tape, à partir de 18h30, organise une rencontre et de soutien aux camarades LGBT en procédure de demande de statut de réfugié en France, avec la projection d'un documentaire « Les portes d'Acadie », qui suit la permanence ARDIS, Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour dans l'accompagnement des personnes. Et à partir de 20h30, discussion et apéro convivial. C'est le 9 février au centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins, dans le premier. Il y a Pinar Selek, une sociologue qui est turque, qui habitait à Istanbul, qui depuis 1998 subit un procès kafkaïen, parce qu'elle aurait été accusée d'avoir mis une bombe dans un célèbre bazar à Istanbul, ce qui en fait était juste une bonbonne de gaz qui a fait plusieurs dégâts suite à des... à plein d'expertises, ça a pu être vraiment prouvé, mais à chaque fois, la justice et l'État turc la renvoie au tribunal, et de nouveau, alors qu'elle a eu quatre acquittés, elle a été quatre fois acquittée, de nouveau, le 25 janvier 2017, le procureur de la Cour de cassation redemande le réexamen de l'affaire. Et pour finir, Safisfer, une rappeuse qui a joué plusieurs fois au FemmeSiFest de Saint-Etienne, passera dans le bar Rita Plage à Villeurbanne. C'est un bar féministe et LGBT où se passe de belles soirées. Et c'est une rappeuse locale. On vous laisse avec la suite des programmes de Radio Canu. Au revoir à toutes et bonne écoute avec les bandes continues, puis Dancehall Social Club si tout va bien.